Quand je lis un roman policier, j'arrive toujours à un moment critique où le héros est dans un très vilain drap. Par exemple, ligoté sur des rails. Et on entend déjà le bourdonnement d'un train qui arrive à toute allure. Je suis alors angoissé pour lui et je ne peux donc mettre tout simplement le livre de côté. Mais comme je n'ai pas non plus le temps de continuer à lire la suite de l'histoire, je lis un peu plus loin pour voir si le héros est toujours en vie. Une fois rassuré, je lui chuchote « Je ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas t'en tirer. » Nous vivons dans un monde où, quel que soit le domaine envisagé, la situation est au mieux mauvaise, mais le plus souvent, elle est franchement épouvantable. Cependant, il y a un livre qui s'appelle l'Apocalypse, qui nous dit comment tout cela va se terminer, et nous apprenons qu'un jour Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, où le mal n'existera plus. Je continue de lire le premier verset de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confié à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. L'origine de la révélation est en Dieu le Père qui la confie à son fils Jésus-Christ, qui charge un ange de la communiquer à l'apôtre Jean, qui l'a fait connaître aux chrétiens appelés ses serviteurs, littéralement ses esclaves, parce qu'il s'agit des croyants fidèles et consacrés, ceux à qui Jésus dit « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. » Les non-croyants, par contre, ne peuvent pas comprendre ce que Jésus veut dire quand il parle des réalités spirituelles, parce que la vérité divine leur est cachée. Cette révélation de Jésus-Christ annonce ce qui doit arriver bientôt, au lieu de rapporter des faits historiques comme dans les quatre évangiles. Le mot « bientôt » signifie que l'action est proche et imminente, sans pour autant préciser quand elle aura lieu. Cependant, ces prophéties s'accompliront d'une manière soudaine et inattendue. Dès que le premier des événements se déclenchera, tous les autres s'enchaîneront à un rythme soutenu pour ne pas utiliser un autre mot. Jean n'est pas le premier auteur à utiliser les verbes « révéler »,« faire connaître » ou encore « ce qui doit arriver ». Le prophète Daniel fait de même. L'avenir porte en lui un aspect fascinant, mais il ne faut pas se laisser charmer, car en attendant que Dieu manifeste visiblement sa présence, les croyants sont appelés à mener une vie sainte. Dans sa seconde épître, l'apôtre Pierre écrit « C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. » Bien que les évangiles renferment des allusions à l'avenir, ils sont essentiellement centrés sur la vie et le ministère terrestre du Seigneur Jésus. Le livre des Actes, quant à lui, raconte l'histoire de l'Église depuis son origine, le jour de la Pentecôte jusqu'à l'emprisonnement de l'apôtre Paul à Rome. Ensuite, nous avons les Épîtres qui, comme les Évangiles, ouvrent ici et là une petite fenêtre sur le futur. Mais leur but est avant tout d'expliquer la signification pratique de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, et de l'appliquer à la vie des croyants. Donc, si on considère le Nouveau Testament, les cinq premiers livres sont orientés sur le passé, et les 21 suivants se préoccupent du présent. L'Apocalypse, le 27e et dernier livre du Nouveau Testament, est le seul qui soit prophétique, le seul qui soit principalement axé sur ce qui arrivera dans l'avenir. Et il n'y a pas beaucoup de couleurs roses bonbons, tant s'en faut. C'est un livre de jugement et de condamnation, et ce côté sombre n'est jamais caché. Il y est question de l'agneau égorgé, mais aussi de la colère de l'agneau, et un fleuve d'eau de la vie, mais aussi d'un étang de feu. Toujours, dès les premiers versets, il est dit que ce qui doit arriver bientôt, Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. Les mots « l'a fait connaître » sont la traduction d'un verbe grec qui veut dire « faire connaître par signe, symbole ou par la parole ». L'ange que Jésus envoie n'est pas nommé, mais nous avons de bonnes raisons de penser qu'il s'agit de Gabriel, parce que c'est lui qui apporta des messages au prophète Daniel, à Marie, mère de Jésus, et à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Dans le Nouveau Testament, l'Apocalypse est unique en son genre, de bien des manières, et aussi dans le sens que c'est le seul livre dont le contenu est révélé à son auteur humain par l'intermédiaire d'un ange. Cette vérité est réaffirmée tout à la fin du livre quand Jésus déclare « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejeton de la racine de David, son descendant. C'est moi, l'étoile brillante du matin. » Des anges prennent part à la révélation de l'apôtre Jean de ce qui doit arriver à la fin des temps, au même titre que la loi de Moïse a été promulguée par leur intermédiaire, ce que le Nouveau Testament confirme trois fois. Les anges sont en effet très présents dans l'Ancien Testament, et ils le sont également dans les fresques grandioses que Jean nous peint dans l'Apocalypse, ce qui contraste avec les autres livres du Nouveau Testament. En vérité, pendant le temps de la grâce, aussi appelé temps de l'Église, les anges sont peu actifs parce qu'ils sont surplantés par le Saint-Esprit. Par contre, dans le livre de l'Apocalypse, ils sont partout, ce qui montre bien qu'à cette époque lointaine, d'une part, le monde sera sous un régime différent de celui dans lequel nous sommes actuellement, et d'autre part, Dieu aura repris son programme avec Israël. Mis à part deux chapitres de l'Apocalypse, des anges figurent dans tous les autres. Ils sont tellement présents que le quart des références aux anges contenues dans les Écritures se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Ils y sont mentionnés 71 fois, soit plus souvent que dans n'importe quel autre livre sacré, ce qui fait de l'Apocalypse une source précieuse d'informations concernant le ministère des êtres angéliques. Jean se présente comme un serviteur, en réalité un esclave. La même façon que Paul, Jacques, Pierre et Jude s'identifient dans leurs écrits du Nouveau Testament. Jean ne dit rien d'autre de lui. S'il est vrai qu'à une certaine époque, il réside en Asie mineure, il est clair, d'après la langue et le style du livre de l'Apocalypse, que l'auteur est un chrétien d'origine juive, ayant une position d'autorité dans les églises de cette région. Influencé par la traduction selon laquelle Jean, fils de Zébédée et frère de Jacques, avait émigré à Éphèse, les premiers écrivains chrétiens identifient tout naturellement l'apôtre Paul au prophète qui écrit l'Apocalypse. J'ai déjà couvert en détail les raisons qui justifient cette conviction. Cependant, le facteur le plus décisif en faveur d'une telle prise de position est peut-être bien la manière sobre dont l'auteur se présente en disant simplement que son nom est Jean, comme s'il n'existait dans ces contrées aucun autre dirigeant chrétien avec qui on pourrait le confondre. De plus, et comme je l'ai déjà dit, la pensée et les expressions du livre de l'Apocalypse ont des affinités si nombreuses et si remarquable avec l'Évangile selon Jean, qu'on est obligé d'admettre que c'est la même plume qui a rédigé les deux livres. Je continue maintenant de lire dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse. En tant que témoin, Celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Jean se présente ici tout d'abord en tant que prédicateur de la parole de Dieu en général et du Seigneur Jésus-Christ en particulier, puisqu'il fut témoin de sa vie et de la vérité que Jésus a révélée. C'est ce qu'il nous raconte dans son évangile. Deuxièmement, Jean se dit témoin de ce qu'il a vu et entendu, que ce soit dans notre réalité ou dans la vision qu'il a reçue et qui concerne la seconde venue du Seigneur. En effet, par tout ce qu'il a vu, Jean désigne premièrement les faits historiques dont il a été témoin lors de la première venue de Jésus, ce qu'il rapporte dans son évangile et dans sa première épître par des expressions spécifiques comme « Nous avons contemplé sa gloire ». Celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité. Nous vous annonçons le message de celui qui a la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos propres yeux, nous l'avons contemplé et nos mains l'ont touché. Deuxièmement, par tout ce qu'il a vu, Jean décrit aussi ce qui lui a été miraculeusement révélé. Cet apôtre est un homme discret qui évite d'attirer l'attention sur lui. Dans son évangile, il ne fait jamais allusion à lui-même, mais dans l'Apocalypse, au commencement et à la fin de sa vision, il dit « Moi, Jean ». Pour bien souligner que ce qu'il a vu est époustouflant, mais que c'est la vérité. Tout comme Jean authentifie les faits qui entourent la première venue de Jésus, il atteste ici les événements qui concerneront sa seconde venue. Une autre remarque intéressante concernant Jean est qu'il est l'auteur sacré qui regarde le plus loin dans l'éternité passée. En effet, dans l'Évangile, il dit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. » Puis, quand il rédige l'Apocalypse, c'est encore Jean qui pénètre le plus profondément dans l'éternité future, jusqu'à entrer dans le royaume de Dieu encore à venir. Je continue de lire dans le premier chapitre de l'Apocalypse. « Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. » Dans cette phrase, le verbe « donne lecture »,« entendre » et « obéissent » sont des participes présents. Entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire l'accepter dans son cœur, puis lui obéir, sont une obligation pour tous ceux qui se disent croyants. Dans son évangile, Luc rapporte qu'un jour, une femme dit à Jésus « Heureux la femme qui t'a mis au monde et qui t'a allaité !» Mais le Seigneur lui répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent !» L'expression de Jean « Celui qui donne lecture » fait référence à une pratique courante des églises du premier siècle. En effet, quand les chrétiens se réunissent, quelqu'un lit à haute voix un passage de l'Ancien Testament ou d'une lettre d'un apôtre et tous les autres écoutent. Il faut se rappeler qu'à cette époque, le parchemin est cher et rare et qu'au mieux, une assemblée chrétienne possède un seul exemplaire de l'Ancien Testament et vers la fin du premier siècle, une copie de quelques écrits du Nouveau Testament. La lecture publique est donc le seul moyen pour les croyants de connaître la parole de Dieu. Il est évident qu'ici Jean exprime le désir que le contenu de sa vision soit lu dans les assemblées et considéré parole inspirée de Dieu. Le mot « heureux » appliqué à celui qui lit les paroles et à ceux qui les entendent et qui leur obéissent rappelle les béatitudes de l'Évangile selon Matthieu. En fait, ici, la première de cette bénédiction promise dans l'Apocalypse, je lis les six autres. Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire, « Écris, heureux dès à présent celui qui meurt uni au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise, et ils seront récompensés pour leurs œuvres. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui se tient éveillé et qui garde ses vêtements afin de ne pas aller nu, en laissant apparaître sa honte aux yeux de tous. L'ange me dit alors, écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Et il ajouta, ce sont ça les paroles authentiques de Dieu. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Jean conclut son prologue en affirmant que « le temps est proche ». Le mot pourtant n'est pas « chronos » qui signifie « le temps qui passe » que marque une horloge ou un calendrier et qui a donné « chronologie » en français. Jean utilise le mot « kienos » qui se rapporte à une ère, une saison, une époque. Il désigne la période qui couvre les temps de la fin auquel le prophète Daniel fait aussi référence à plusieurs reprises. En disant que ce temps est proche, Jean répète ce qu'il a déjà dit, c'est-à-dire que les événements qu'il va décrire sont imminents, qu'ils vont arriver bientôt. Le retour de Jésus-Christ dans les airs, qui revient pour chercher les siens, c'est-à-dire les membres de son Église, est le prochain grand événement inscrit dans le calendrier eschatologique et prophétique de Dieu, et le premier de la série de la fin des temps. Les croyants de toutes les époques doivent l'attendre avec anticipation. À ce sujet, Jésus dit à ses disciples « Tenez-vous prêts à l'action. » Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Tenez-vous prêts, car c'est un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. La plupart des auteurs sacrés du Nouveau Testament s'attendent au retour imminent du Seigneur, car ils emploient des expressions comme « la nuit tire à sa fin, le jour va se lever, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Patientez donc jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Voici que le juge se tient déjà devant la porte. La fin de toutes choses est proche. La dernière heure a commencé. » Je continue le texte du premier chapitre de l'Apocalypse. Jean salue les sept églises qui sont dans la province d'Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Dans l'Antiquité, l'auteur d'une lettre s'identifie au tout début en donnant son nom et d'autres informations. Cette prophétie de Jean qui concerne la révélation de Jésus à la fin des temps se présente sous la forme traditionnelle d'une lettre qui commence par une salutation propre aux écrivains sacrés du Nouveau Testament, comme le fait l'apôtre Paul ou Jean lui-même dans sa seconde épître. Jean précise à qui le livre est adressé. Il s'agit de sept églises qui sont dans la province d'Asie. Ces églises se trouvent dans un rayon de 80 km de la ville d'Éphèse, un port situé sur la mer Égée à l'extrême ouest de la Turquie actuelle. D'une certaine manière, ces sept églises représentent toutes les églises d'Asie mineure, et par extension toutes les églises chrétiennes du monde et de tous les temps. L'expression « la grâce et la paix » résume d'une manière concise aussi bien la relation des croyants avec Dieu que leur expérience personnelle. La grâce est l'attitude de Dieu le Père à l'égard de ses enfants, c'est-à-dire ceux qui ont placé leur confiance en Jésus seul. La grâce est aussi ce qui leur permet de persévérer malgré les difficultés inhérentes à la vie. La paix est la première bénédiction de la relation d'un croyant avec Dieu. C'est un état de tranquillité intérieure que le croyant ressent malgré l'hostilité du monde extérieur envers lui. Et même si les prophéties de l'Apocalypse font dresser les cheveux sur la tête du plus brave, le croyant peut connaître une paix parfaite alors que le monde s'écroule autour de lui parce qu'il se sent en sécurité sous la protection de son Sauveur. L'expression « celui qui est, qui était et qui vient » est très inhabituelle pour désigner Dieu le Père. Mais il paraphrase le nom sous lequel l'Éternel se révèle à Moïse quand il lui dit « Je suis celui qui suis ». Assez curieusement, Jean décrit l'Éternel sous les trois dimensions temporelles qui nous sont familières. Alors que par définition, et comme son nom l'indique, Dieu se situe hors du temps, de l'espace et du monde visible et matériel.